Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. L'épisode de cette semaine est permis grâce au soutien de Nous Tous, une mutuelle santé indépendante destinée aux 18-28 ans. Ce que j'ai beaucoup aimé dans la démarche de Nous Tous, c'est que la solidarité est leur principal mot d'ordre. Leur objectif est de faire face aux dépenses peu remboursées par la sécurité sociale, comme les contraceptifs, les médecines douces ou encore les protections hygiéniques. Oui, enfin, il y a une mutuelle qui s'est proposée de les prendre en charge. Et surtout, c'est une mutuelle vraiment pratique et accessible. Vous pouvez accéder à votre dossier et vos remboursements sur l'application Nous Tous et les contacter directement par WhatsApp si vous avez la moindre question. Pour s'inscrire, il suffit de se rendre sur leur site www.noustous.fr ou de télécharger l'application Nous Tous et vous pouvez commencer à être assuré pour seulement 20€ par mois. Cette semaine, je suis ravie de recevoir Megan Villot, créatrice de contenu et entrepreneur. Pour tout vous dire, Megan est vraiment une des plus belles rencontres que j'ai pu faire grâce aux réseaux sociaux, d'une authenticité et d'une sincérité qui m'ont tout de suite énormément plu. J'avais envie d'enregistrer cet épisode avec Megan pour plusieurs raisons. Déjà, c'est quelqu'un d'hyper créatif et qui a beaucoup de conseils à partager, mais aussi parce que je sais qu'elle n'a pas eu un parcours des plus classiques et qu'elle a eu beaucoup de difficultés à croire en elle. En effet, Megan a raté son bac en terminale, et comme le système scolaire nous pousse à associer les notes à notre valeur, c'est toute sa personne qu'elle a remis en question. Megan nous partage dans cet épisode son cheminement pour trouver sa voie, le syndrome de l'imposteur, le soutien de ses proches et notamment de son copain Théo, et ce qui l'a poussé à se lancer sur les réseaux sociaux. L'année dernière, Megan a également ouvert le premier bar de pâte à cookies de France, Cupkey. Si vous n'y êtes pas encore allé, je vous recommande chaudement d'y aller, c'est vraiment très très bon. Et c'est désormais une vie d'entrepreneur et de propriétaire de boutique qu'elle doit aussi mener. Dans cet épisode, on vous partage toutes nos peurs, nos doutes, nos remises en question, mais aussi nos conseils pour se lancer et ne jamais abandonner. J'espère qu'il vous plaira, et si c'est le cas, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et vous abonner sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. C'est gratuit et c'est ce qui soutient le plus le podcast. Je suis ravie de vous inviter maintenant à rejoindre ma conversation avec Megan. Bon bah bonjour Megan.
Coucou. Ça va ?
Bienvenue sur In Power. Je suis ravie d'être chez toi, dans ton appart de ouf, que si jamais vous ne connaissez pas, je vous invite à aller regarder les stories de Megan, vu qu'elle a la gentillesse de nous le partager souvent en story. Bon Megan, pour les personnes qui peut-être ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites ?
Écoute, avec plaisir. Imagine si je te disais non. Oh non, écoute, flemme.
Un peu la flemme, parce qu'en plus, je trouve que c'est une question difficile. Hein.
C'est une
en
question
vrai,
super
j'adore pas répondre à cette question.
Ouais.
Parce que je suis là, merde, qu'est-ce que je dis ?
Qu'est-ce que je dis ?
Qui est rallonge ?
Ouais.
Qu'est-ce que je dis pas ? Qu'est-ce qu'ils ont ?
Est-ce que je me la raconte ? Est-ce que je me la raconte pas ? Non, mais c'est tu ouf. Sais, t'es plus. Alors, est-ce que je donne mes qualités ? Est-ce que tu sais, comme les qualités et les défauts, tu sais ? Non, mais on va faire basique. Je m'appelle Megan. Je suis créatrice de contenu depuis maintenant plus de 4 ans. Je suis designer de base et j'ai 29 ans. J'ai un chat. Et puis, j'aime bien la vie. Et j'aime bien manger. Et j'aime bien sourire et rigoler.
Ah, on a pas mal de points en commun.
Ouais.
Mais c'est pour ça que je pense que pas mal de gens te connaissent, des personnes qui nous écoutent. Mais bon, à mon avis, ils connaissent pas toute l'histoire.
Non.
Donc, on est là pour ça. Déjà, est-ce que tu peux nous dire... Moi, j'aime bien savoir comment est-ce que mes invités imaginaient la vie quand ils étaient enfants. Tu vois, est-ce que tu te souviens, comment est-ce que tu imaginais ta vie quand tu avais 9-10 ans ?
Ah ouais, 9-10 ans, je le sais déjà. 9-10 ans, je me disais qu'à 25 ans, on était adulte. Vraiment, j'ai 29 ans, je le rappelle. 25 ans, on était adulte et on avait un chien, un mari, une maison avec un petit peu d'herbe devant pour garer la voiture. Et puis, c'est tout. Pour moi, ça s'arrêtait là. Être adulte, c'était ça. Et pourquoi pas être caissière, parce que j'adorais jouer à la caissière. Ou boulangère pour pouvoir manger les pâtisseries. Et ben, je m'en suis vite rendu compte que c'était pas la réalité, puisque j'ai fini mes études à 24 ans. Et que je n'avais ni chien, ni maison, ni voiture. J'avais même pas le permis.
Je l'ai toujours pas, yo !
Non, moi, ça y est, je l'ai eu. À 24 ans, 25 ans. Mais je ne conduis pas.
Ouais.
Mais j'avais le mec, par contre.
Ouais. Plutôt. Il est toujours là.
Il est toujours là.
Que ouais. Megan est donc en couple avec Théo depuis qu'ils ont 16 ans.
Ça va faire...
Beaucoup trop mimes.
Oui. Dans 5 jours, 6 jours, ça va faire 13 ans.
Ah, c'est dingue.
Ouais, c'est fou. Ouais.
Et donc, quand est-ce que tu as commencé à voir la vie différemment ? Comment... Enfin, est-ce que tu peux nous raconter peut-être le lycée, comment tu te sentais ? Tu vois, comment est-ce que tu as commencé, on va dire, à trouver ta voie et à trouver... à être à l'aise avec qui tu étais ?
Alors, être à l'aise avec qui j'étais, c'est pas au lycée. Hein. Oh là là là, moi j'ai mis vraiment beaucoup de temps. Je pense que ça fait que 3 ans que je suis à l'aise avec qui je suis. Mais j'ai commencé à déchanter en fait au lycée quand j'ai loupé mon bac. Toute ma vie, j'étais une très 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 bonne élève et j'avais la pression des résultats par ma maman. Mais je la remercie, hein, mais c'est vrai qu'il fallait réussir dans la vie. C'était extrêmement important pour elle. Elle m'élevait seule, la réussite, la réussite, la réussite.
Et si je peux me permettre, ça voulait dire quoi pour elle, réussir ?
Réussir, c'était faire de bonnes études.
Ouais.
Et aider les gens.
Ok.
C'est-à-dire un métier, pas un métier égoïste. Mm. Je pense que si j'avais été médecin, elle aurait été ravie. Ou infirmière, ou aider les gens. Mm. Ma mère a travaillé très très tôt, elle m'a eu très tôt, il a fallu qu'elle se débrouille toute seule très tôt. Et je l'ai toujours vue énormément travailler. C'est-à-dire que je suis même passée après son travail. Hein. Mmh. C'est vraiment... j'ai très vite été toute seule. À 9 ans, j'étais seule le soir.
Parce que t'es fille unique.
Je suis fille unique, ouais. Et ma mère travaillait de nuit. Donc ouais. En fait, je rentrais de l'école à 16h30, elle était déjà pas là. Elle rentrait à minuit, je dormais. Le matin, je la laissais dormir. Je la voyais en fait le midi. Mmh. Le dimanche, elle travaillait toute la journée. Donc il a fallu vraiment... mais j'en parle, j'ai aucune tristesse. Hein. Vraiment, j'ai eu une enfance, mais la meilleure enfance qu'on puisse avoir. Entourée de famille, j'ai mes grands-parents qui étaient extrêmement présents. Non, vraiment, voilà. Donc il fallait... Voilà, pour ma mère, il fallait que je travaille. Moi, je ne voulais pas la décevoir. Et moi-même, je me mettais la pression. Hein. C'est-à-dire que chaque année, j'avais peur de redoubler, alors que j'avais 19 de moyenne.
Ah ouais. Ouais,
vraiment, j'étais une tarée. Si j'avais un jour un 13... C'était la fin du monde. Je pouvais rentrer en pleurant. Ma mère devait me consoler. J'avais peur de l'échec. Ouais. Mais vraiment, et je voyais même les gens qui redoublaient comme des gens, mais qui ne feraient rien de leur vie.
Mais c'est fou, ça, hein, ces clichés intégrés, parce que moi, j'avais un peu la même vision des choses. Et enfin, du coup, moi, ça m'est transmis par mes parents, alors que toi, j'ai l'impression que ça n'a pas été le cas. Mais donc, en fait, je pense que c'est très sociétal, quoi. C'est,
ouais.
Enfin, il y avait une espèce de peine pour les gens qui redoublaient, alors que, enfin, tu sais, avec leur cul aujourd'hui, je suis là, mais ça,
c'est nul, mais c'est pas grave.
Enfin,
mais oui.
Tu réassimiles ce que t'as pas assimilé, tu vois.
Pour moi, c'était vraiment catastrophique. Mm. Si on m'avait dit en primaire, au collège, Mégane, tu redoubles. Non, mais en fait, ce n'était pas envisageable.
Ouais, ouais.
Et je suis arrivée en terminale. J'ai rencontré mon mec en première et en fait, j'ai commencé à me coucher très tard parce qu'on s'appelait très très longtemps le soir. Et puis du coup, à m'endormir en cours, première fois de ma vie. Et puis bah, du coup, un peu décroché. Alors, c'est pas du tout de sa faute, hein. Je mets pas ça sur son dos. Mais c'est vrai que l'adolescence, voilà, j'aimais bien flâner avec mes copines. Je travaillais moins. Et on arrivait en terminale. Et en terminale, il faut avoir un esprit de synthèse, ce que je n'ai pas du tout. Et vous allez pouvoir le remarquer. Je ne sais pas synthétiser ce que je raconte. Et pour le bac, ce n'est que ça. Donc, je pouvais apprendre par cœur les choses. J'apprenais mes phrases, mes cours par cœur, et ça ne suffisait pas. Et donc, j'ai loupé mon bac. Et alors là, ça a été... j'ai dégringolé. Ça a été... Maintenant, j'en parle avec du recul. Tu me posais la question il y a encore 1 ou 2 ans. T'as fait des études, je te disais automatiquement que j'avais redoublé et que j'ai eu mon bac par chance et que je le mérite toujours pas.
Ah ouais.
Alors que j'ai un bac plus 5 maintenant, tu vois.
Ouais, c'est dingue.
Ouais, non, ça a été compliqué. Et après, j'ai changé de lycée et pendant un an, bah, j'ai eu peur de ne pas avoir mon bac à nouveau. Mmh. J'ai flippé et je savais ce que je voulais faire. Je voulais faire de l'art. Donc, en fait, les cours d'éco, de sociaux, de maths, je m'en foutais un peu. C'est-à-dire que ça m'intéressait un peu, tu vois, mais... Moi, je voulais faire de l'art, du design graphique. J'étais créative, tu vois. Donc, rester à l'école et puis juste écrire, ça me saoulait.
Et comment est-ce que tu as découvert cette passion et cet intérêt pour l'art et la créativité? Parce que, comme, enfin, tu vois, je trouve ça... Je crois que je le dis dans chaque podcast, mais je trouve ça tellement dommage qu'on n'ait pas de plus de parties créatives en cours.
Ouais.
Qu'en fait, tu vois, tu peux découvrir si tu es passionné par les sciences et que tu travailles dans les sciences, si jamais tu travailles dans les langues, mais...
Pas
enfin,
pour l'art,
à part les 2 heures d'art plastique que t'as par semaine, tu vois, tu peux pas trop savoir si t'es créative et que, par exemple, le design, on en fait pas, tu vois.
Non. Et ben en fait, là encore une fois, mon futur mari, heureusement qu'il a été là, et je crois fortement au destin, hein, parce que lui, dans sa famille, tout le monde est créatif. Son père est réalisateur, sa mère travaille dans la publicité. Donc lui était beaucoup plus... côté artistique que moi je n'avais pas du tout dans ma famille. Non, mais dans ma famille, il n'y a personne qui fait de l'art. Et en fait, lui voyait tout ce que je faisais. C'est-à-dire que tous les week-ends, je dessinais, je faisais de la poterie, de la pâte Fimo. Tu me donnais un ordinateur. En fait, j'avais déjà Photoshop à 16 ans et je faisais déjà des flyers. Je voulais faire des logos, mais je ne savais pas trop que ça s'appelait comme ça. Et un jour, il me dit, mais tu sais qu'il existe des études là-dedans. Et je lui dis, bah, c'est-à-dire, ces trucs trop fun, genre trop cool. Tu me dis que ça existe. Bah ouais, ouais, on va se renseigner. Je dis, ah bon. Et en fait, on s'est renseigné. Et on a trouvé des écoles. Et j'étais là, mais par contre, c'est ça ma vie. C'est de créer. Je veux créer des choses. Je veux faire du montage. Je veux faire de la photo. Je veux faire tout plein de choses comme ça, créatif. Et donc, je suis tombée sur ces études-là. Autant te dire qu'au début, quand j'ai dit ça à ma mère, quand je lui ai dit, écoute, maman, déjà, j'ai redoublé le bac. Et en plus, je veux faire des études d'art. Elle était là, d'accord. Et en plus, ça coûte très très cher et qu'on n'a absolument pas les moyens, donc il va y falloir avoir un prêt étudiant. Finalement, elle a accepté. Puis elle a très vite vu que dès la première année, c'était bon, quoi. C'était ma voie. Mais sans mon mec, je pense que j'aurais été à la fac comme tout le monde et j'aurais abandonné parce que j'aurais pas réussi, c'est sûr. C'était pas mon univers. J'ai pas ce cerveau si développé pour synthétiser des choses, avoir des cours de 6 heures, faire des dissertations pendant 8 heures d'affilée, je pourrais pas, ça m'angoisse. Je pense que même aujourd'hui, si je devais repasser le bac et que j'apprenais tout pareil, je n'y arriverais pas. Parce que je n'ai pas cet esprit de synthèse.
Mais tu sais, alors, je le dis juste parce que comme on m'a aussi éduquée un peu avec cette mentalité de « on est comme ci, on est comme ça », et que j'ai lu le livre « Mindset » de Carol Dweck, que je recommande à chaque auditeur et à chaque auditrice, plus on se dit les choses, plus notre cerveau l'intègre.
C'est vrai.
Et moi, par exemple, j'avais tendance à dire l'inverse. J'avais tendance à dire « je ne suis pas du tout créative, je ne sais pas dessiner ». Genre, mes parents répétaient à qui voulait l'entendre, qu'on était genre la famille qui savait le moins bien dessiner et tout. Et moi, j'avais vraiment... Enfin, pour moi, c'était une évidence, tu vois. Et j'ai vu, notamment dans ce livre, tu vois, il montre... Enfin, la docteure en psychologie qui a écrit ce livre montre des dessins réalisés par des personnes donc, qui pensent ne pas savoir dessiner au jour 1 d'un stage et au jour 5. Et en fait, c'est incroyable au jour 5 à quoi ressemblent les dessins et à quel point ils sont extrêmement bien faits. Et c'est pas tant qu'on leur a appris à dessiner, c'est qu'on leur a déconstruit l'idée qu'ils ne savaient pas dessiner.
Mais ça m'étonne pas.
On leur a montré qu'en fait c'était une question d'ombre et de lumière, de perspective. On leur a dit qu'ils étaient capables et on leur a montré ce que ça voulait dire. Et en fait, à partir de là, je me suis dit, oh bah c'est dingue. En fait, c'est. Enfin, oui, je pense quand même qu'on a des parties
on a des facilités.
Oui, bien sûr. Mais dans l'absolu, je pense qu'il n'y a rien qu'on ne peut pas faire.
Je suis vraiment d'accord avec toi. Après, il faut du temps.
Ouais,
et malheureusement, le bac, t'as un an. Hein. T'as le lycée pour le faire, mais je veux dire, voilà. Et puis, en vrai, à côté de ça, ça ne m'intéressait pas des masses non plus.
Et c'est hyper dur de se motiver quand
exactement, c'est exactement ça. Et franchement, je trouve ça très dommage, parce qu'il y a un autre point que j'aimerais aborder, c'est que quand j'ai découvert ce que je voulais faire, il y avait admission post-bac à l'époque, et donc on mettait nos choix. Donc, les écoles de commerce, tu pouvais mettre 12 choix. Les facs, tu pouvais mettre 12 choix. Les écoles de médecine, 12 choix. Et quand t'arrivais aux écoles d'art, tu n'avais le droit de mettre que 3 choix.
Ah oui, c'est dingue.
Et en plus de ça, c'était jugé sur les notes. Les notes scolaires, donc mathématiques, français, histoire. À quel moment ces matières-là influent sur ta créativité? Et en fait, à cause de mes résultats, je n'ai pas eu d'école d'art. Public, hein. Je parle public. Et donc, j'ai dû passer des concours dans des écoles privées qui coûtent une fortune pour intégrer des écoles privées.
Ouais.
Et quand j'ai été dans mon deuxième lycée, qui était un lycée avec de très bons résultats, ma prof principale a osé me dire au début de l'année, quand on remplissait les vœux, quoi, on disait ce qu'on voulait faire. Moi, dans ma classe, tout le monde voulait faire Sciences Po, HEC, école de médecine, tout ça, ça faisait rêver. Et moi, quand j'avais mis école d'art, ma prof principale m'a quand même dit... c'est une blague. Il va falloir trouver un vrai métier.
Ah, ça, c'est, ça, là, c'est vraiment terrible.
Ah, c'est terrible. C'est terrible parce que tu te dis, mais en fait, c'est ce que je veux faire. C'est vraiment ce que je veux faire. Mais est-ce que c'est la bonne décision?
C'est clair. Il y a une phrase moi, qui m'a un peu traumatisée. Bon, on me l'a un peu dit quand je disais que je voulais faire journalisme. Mais c'est surtout, on l'a surtout dit à d'autres amis. Et je l'entendais tout le temps, cette phrase. Mais il n'y a pas de débouché.
Ah oui,
mais cette
phrase,
il n'y a pas de débouché, mais et donc c'était un peu une espèce de fatalité. Ouais. Tu fais journaliste, mais il n'y a pas de débouché, bah tant pis, ne le fais pas.
Ben oui.
Et en fait, assez rapidement, heureusement, je me suis dit, enfin, ça veut rien dire. Je veux dire, si tu veux faire quelque chose, tu vas le faire. Ok, ce sera peut-être plus dur, ça va peut-être plus galérer, mais si je vais réussir à faire le métier que j'ai envie de faire. Mais cette espèce de fatalité en mode, ah, oui, tu devrais choisir ton métier en fonction des débouchés qu'il y a. Mais c'est absurde.
Mais c'est ça. Mais souvent, c'est ça en vrai. C'est vraiment en fonction du salaire. Quand t'es au lycée, on te parle de salaire. Alors que bon, Dieu sait que... Enfin, c'est pas parce qu'on te dit à 18 ans, bah, le salaire d'avocat, c'est tant. Non, ça se trouve, tu seras le meilleur avocat.
Ouais.
On te voudra de tous les procès et puis tu gagneras des 1000 et des 100. Ou alors pas du tout, tu vois. On te parle de salaire et on te parle de débouchés, c'est vrai.
Non, mais c'est vrai.
Et moi, on m'avait dit pour l'art, mais qu'est-ce que tu veux faire dans l'art ? Parce que tu dessines pas si bien que ça. Alors, par rapport au niveau des élèves en école d'art, effectivement, j'étais un peu à la traîne. Un niveau normal, ça allait. Donc, on me disait, tu peins pas, tu dessines pas si bien que ça, mais du coup, qu'est-ce que tu veux faire dans l'art ? Mais il y a tellement de métiers.
Il y a tellement de métiers. Et surtout, aujourd'hui, avec le digital, ça, c'est vraiment un truc que je trouve très, très cool dans tous les métiers créatifs, c'est que ça a ouvert tellement de portes. Et aujourd'hui, on peut venir te démarcher juste parce que tu vas poster des trucs cool sur Instagram. Enfin,
ah oui. Moi, je suis arrivée au summum de ce que je pouvais imaginer. C'est-à-dire que j'ai fait mes études d'art. Faut savoir qu'en école, t'as les profs. C'est le meilleur moment de ta vie parce que c'est le meilleur moment où tu peux être aussi créatif. Après, quand tu rentres en agence de pub, on te dit direct non, le client n'a pas assez de budget, non, il faut utiliser ces couleurs-là, non, c'est pas ses formes, t'as des chartes graphiques imposées.
C'est trop dur.
C'est super dur et surtout.
Tu peux aller contre ta nature, limite. Quoi.
Contre ta nature et en plus de ça, il y a un truc, c'est que le client, tu ne le choisis pas, t'es obligé d'accepter. Donc moi, je sais, c'est souvent ce que je raconte dans les interviews. Je me suis retrouvée quand même pendant ma cinquième année, je faisais une semaine école, trois semaines agence. Je me suis retrouvée 3 mois sur une brochure de piscine. C'est-à-dire que j'avais fait un bac plus 5 et je devais m'occuper de dessiner des plans de piscine avec des moteurs, comprendre les trucs. Et je me suis dit, oh, par contre, je suis désolée, j'ai 24 ans. Alors, en plus, je culpabilisais parce que je me disais, j'ai 24 ans, je ne peux pas prétendre à mieux que ça. Je peux pas prétendre à mieux que ça, mais en même temps, je n'ai pas envie de faire ça de ma vie. Et on te dit, oh là là, tu sais, avant 40 ans, t'auras pas de vie, tes horaires, machin. Je me disais, mais moi, j'ai besoin d'être un peu plus créative, de m'amuser. Je voulais m'amuser, je voulais pas. Et au final, aujourd'hui, je suis pas dans une agence, et c'est des marques qui viennent vers moi, et moi, j'accepte ou non, parce que le projet est fun ou pas. Quel bonheur.
C'est clair. Non, mais ça, c'est un autre point aussi, que c'est bien qu'on déconstruise, parce que le but, c'est aussi un peu de dire ce qu'on aimerait qu'on aurait aimé savoir avant, mais cette idée qu'il y a une espèce de sacrifice,
ouais,
je comprends pas du tout. Et c'est encore ancré dans beaucoup de mentalités,
oui,
de se dire bon, je vais tenir dans cette boîte 5-6 ans.
Exactement.
Ça me permet d'avoir un beau nom sur mon CV, d'avoir un bon salaire, de faire mes armes, et après, je ferai ce qui me plaît.
Exactement.
Oh, mais commence à faire ce qui te plaît maintenant.
Ben ouais.
Et il y a un énorme. Enfin, je pense que c'est beaucoup de choses. Il y a de la peur, il y a un syndrome de l'imposteur, il y a pas de rôle modèle, tu vois.
Ouais.
Et je pense que c'est particulièrement vrai pour les femmes, où on a tendance à chercher encore plus la sécurité parce que on nous a pas mis dans la tête qu'on pouvait être au pouvoir de notre vie et faire ce qu'on voulait
exactement,
sortir de nos études, tu vois.
Et que déjà, t'as de la chance si t'as un taf.
Ouais.
C'est un peu ça. Nous, c'était vraiment en sortant de l'école, déjà, bah, effectivement, c'était un peu galère parce que. Les agences de pub sont toutes là quand c'est pour du stage, du contrat pro, mais après, pour un CDI, il n'y a plus beaucoup de monde. Et c'est vrai que le salaire, vraiment dérisoire, et tu es obligé de l'accepter parce que tu te dis bah, j'ai de la chance. Déjà, on me propose, j'ai de la chance. Bah non, en fait, parce que tu as fait 5 ans et que ton travail et tes horaires méritent plus, mais non. Moi, je m'en souviens, dans une boîte, j'étais naïve, j'avais dit voilà, on commence à quelle heure le matin ? Wow, 9h30, c'est bien. J'étais là, waouh, trop classe, 9h30. Et le soir, bah, le soir, quand t'as terminé ton travail. Alors moi, je me suis dit, bah, oui, logique, 19h, je sais pas. Non. En agence de pub, à 19h, allez, 18h30, on te dit, t'as pris ton après-midi si tu pars. Et c'est normal de faire du 22h, 23h. Mais pour un salaire dérisoire, parce qu'il n'y a pas d'heure sup. Mais ça, c'est normal. Et on te le dit à l'école, les profs te le disent. Au début, il faut fermer sa bouche. T'es obligé d'accepter. T'es obligé d'accepter. Puis après, quand t'es calé, quand t'es directeur artistique senior, là, oui, tu peux te permettre de partir un peu plus tôt, de profiter de ta famille. Mais je me souviens de mon prof de pub qui nous avait dit « Avant 40 ans, vous ne comptez pas pour avoir une vie. Avant 40 ans, on est diplômé à 24 ans. »
C'est
affligeant. Imagine.
Et 16
ans de ta life.
Ça, tu t'es dit quoi ?
Bah, c'est comme ça. Je me suis dit, bah, ça doit être comme ça, je suis motivée. Ouais, bah ouais. Écoute, Je me suis très vite lancée à mon compte, en tout cas.
Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que je ne t'étais pas lancée à ton compte dès la fin de tes études? Est-ce que tu y pensais?
Non, parce que je ne savais même pas que ça existait. Enfin, ce que je fais actuellement. Ouais. C'est-à-dire que lors de ma cinquième année, j'ai lancé mon compte Instagram. Et en fait, je ne savais même pas qu'on pouvait en faire un métier, en gagner sa vie avec ça. Et surtout, je t'en avais déjà parlé, j'avais honte. Mmh. J'avais très, très honte de dire que j'étais blogueuse. Vraiment, c'était très mal vu encore il y a 4 ans. Là, aujourd'hui, je pense que ça y est, les mentalités ont un peu évolué, mais... C'était vraiment « Ah bah oui, bah t'es la nana, tu présentes des produits de beauté et c'est tout. » Alors non, pas du tout, mais d'accord. Et du coup, j'avais très honte, et encore plus quand t'as fait des études d'art, ou tu sais, t'es un peu genre... les écoles d'art, c'est vraiment bobo, quoi. Et je m'en souviens, même en cinquième année, j'avais des réflexions de gens de ma classe qui pouvaient me dire « Tu vas te prendre en photo, c'est ça, pour Instagram ?» J'avais supprimé mon compte Instagram, je l'avais mis en privé, j'assumais pas du tout. Mmh. Ils auraient pu me gâcher mon truc Et en fait, je me suis dit, quand je finis mes études, je me lance vraiment. Parce qu'il n'y aura plus personne qui pourra rien dire. Et je l'ai fait. Et en fait, après la cinquième année, j'étais diplômée. Comme j'avais fait un contrat pro, j'avais 1 an de chômage. Et en fait, au moment où j'étais diplômée, je reçois un mail qui me dit, voilà, on aimerait te convier à Milan pour... une exposition de je sais pas quoi. Je dis ça à mon mec et je dis, mais c'est une arnaque. Et il me dit, bah non, c'est pas une arnaque du tout. Je dis, mais si, attends. Donc je réponds, merci beaucoup, mais je n'ai absolument pas les moyens de me rendre à Milan. Mais j'étais quand même fière qu'on m'ait proposé de venir à Milan. Et l'agence en question me dit, mais Mégane, tout est défrayé. C'est-à-dire qu'on t'invite et puis là-bas, tu fais des photos et tu mets sur ton blog, quoi. Je dis, mais what the fuck? Qu'est-ce que c'est que ça?
Donc ça, c'était en 2015-2016.
2016.
Donc ça, il n'y a pas si longtemps. Donc,
non.
En fait, parce que raconte-nous un peu peut-être les débuts de ton blog. Tu vois, comment est-ce que tu choisis, par quoi tu vas commencer? Pourquoi est-ce que tu choisis la mode alors que tu aurais peut-être pu choisir, tu vois, des DIY ou je sais pas, de la cuisine, enfin des
trucs. Oh là là, ma pauvre.
C'est quoi un peu ta réflexion au-delà du fait de dire bon, j'ai un peu envie de m'amuser et si je comprends bien, tu avais un peu envie d'exprimer la créativité que tu pouvais pas exprimer au taf. Quoi.
Ouais. Au début, j'ai fait tout. Hein. J'ai fait du DIY, j'ai fait de la food, mais de base, j'avais qu'un compte Instagram. J'avais même pas mon blog parce que moi, je lisais plus les blogs. Mmh. Pour moi, c'était ringard. Mmh. J'étais là en mode. Oh là, je vais pas ouvrir un blog alors que j'en lis plus. J'en lisais avant, mais maintenant j'en lis plus. Et c'est les marques qui m'ont poussé, qui m'ont dit « Ah, mais Mégane, tu sais, si tu avais un blog, on pourrait travailler ensemble. Le référencement, tout ça, tout ça. » Bon, et j'ai ouvert mon blog, j'avais 60 000 abonnés sur Instagram quand même. Et je l'ai ouvert fin octobre 2016. Donc là, il va avoir 4 ans. Et en fait, j'ai fait au début, il y avait tout. Il y avait essentiellement de la mode parce que j'adore les vêtements. J'avais ouvert une marque de shorts customisés quand j'étais étudiante. Et en fait, mais au début, j'étais pas archi créative. Hein. Je faisais juste de jolies photos, comme moi, ce que je qualifierais de jolies. Mais c'était tout. Parce que j'étais assez timide, je parlais pas vraiment. Si je pouvais enlever ma tête, couper la photo et enlever ma tête, je le faisais. J'étais pas à l'aise. Hein.
Et qu'est-ce qui a fait, tu penses, avec le recul, que ça a quand même bien marché? Parce que t'as eu 60 000 abonnés en un an, quoi, à peu près.
Un an et demi, 2 ans. Parce qu'on n'était peut-être pas beaucoup à l'époque.
Écoute, on s'est lancé à peu près en même temps. Moi, je suivais déjà vachement de créatrices de contenu.
Et ah ouais?
J'avais l'impression d'arriver pas en avance, quoi.
Ah ouais,
ouais.
Alors,
après,
au niveau des blogueuses...
Comparé à maintenant, il y en avait vachement moins. Mais moi, je me souviens avoir créé mon compte Instagram parce que je me disais, j'ai grave envie que les filles que je suive interagissent un peu avec moi.
Ouais.
Et que moi aussi, j'ai un compte qui parle des mêmes choses qu'elles. Enfin, tu vois, j'avais vraiment...
Je pensais même pas à ça.
Qu'est-ce que c'est? Enfin, je savais carrément ce que c'était. J'avais tous les usages d'Instagram. Enfin, je suivais plein de filles. Enfin, tu vois, c'était pas pour être créatrice de contenu, mais c'est juste que, tu vois... Quand je commentais la photo d'une fille que j'aimais bien, j'avais envie que si jamais elle aille voir mon compte, elle voit que je partage le même centre d'intérêt qu'elle.
Ouais.
Ce que j'avais pas du tout avec mon compte perso.
Ouais. Moi, en fait, c'était mon compte perso. Donc, c'est-à-dire que maintenant, j'ai un peu nettoyé, mais mes premières photos, c'était des bières et du saucisson, quoi. Mm. C'était vraiment pas... J'étais même pas dessus. Et puis, au fur et à mesure, c'est la période où c'était très à la mode le blanc. On prenait des choses sur des fonds blancs. Et donc, ça plaisait énormément. J'ai fait ça. Puis, à 10-12 000 abonnés, je m'en souviens, j'ai fait un shooting pour Paul & Joe Sister, qui ont utilisé mes photos et donc ça m'avait fait gagner pas mal d'abonnés. J'avais gagné un concours Citadium où ils avaient utilisé ma photo sur tout leur réseau et à l'époque Citadium c'était monstrueux. Donc ça m'avait fait bien monter aussi. Et puis en fait, à l'époque, avoir 20 000 abonnés c'était énormissime.
C'est vrai.
Et donc en fait, plus t'as d'abonnés, alors maintenant 20 000 c'est plus rien, mais à l'époque 20 000 abonnés, ça équivaut peut-être aujourd'hui à 200 000 abonnés, tu vois. Quand tu tombes sur un profil qui a 200 000 abonnés, tu te dis, il y a peut-être un truc, tu vois. Donc je vais un peu plus regarder ce qu'elle fait, la nana, tu vois, ou le mec. Et donc tu t'abonnes. Par automatisme, j'imagine. Et après, c'est surtout le blog, je postais tous les jours.
Ah ouais.
Je me suis dit, c'est simple. J'ai quelques mois devant moi, j'ai le chômage, j'ai quelques mois devant moi pour y arriver. Si je n'y arrive pas, parce que j'avais un prêt étudiant, donc je ne pouvais pas faire n'importe quoi. Donc le chômage me permettait de rembourser mon prêt étudiant. Si dans un an, ça ne marche pas, eh ben je suis designer, en fait. Donc ce n'est pas grave du tout.
Ouais.
Et donc, je m'en souviens, janvier, j'ai posté tous les jours. Et mon blog est passé de 1000 vues par mois à 25-30 000. Et en fait, là, à partir de ce moment-là, c'était bon, quoi. Ça a augmenté très bien.
Ouais.
Alors maintenant, mon blog, je le délaisse un petit peu, mais pendant très longtemps, ça a été mon support de com.
Principal.
Ah ouais, vraiment, c'était très important, ouais. Quoi.
Mais c'est important. Enfin, c'est important. Je trouve intéressant de parler des usages, des changements d'usage, parce que, tu vois, c'est marrant, on a commencé vraiment en même temps. Et moi, j'adore écrire. J'adore écrire, c'est ma première passion. Et en fait, j'étais limite... Enfin, tu vois, je me souviens même, encore avant, il y a 5-6 ans, quand je sortais du lycée, que je commençais mes études, j'avais limite l'impression que je pouvais pas être journaliste parce que plus personne ne lisait, en fait.
Oui.
Tout le monde disait, la presse écrite, c'est mort. Et en fait, du coup, j'ai même pas pensé à créer un blog, alors que j'aurais grave aimé, parce que je me disais, mais plus personne ne lit de blog. Et forcément, moi, j'ai lancé mon blog, au final, à Noël, là, parce que, comme je t'ai dit, j'aime bien avoir des nouveaux projets tout le temps. Et il s'avère que comme j'avais créé Instagram, YouTube, podcast... Je m'étais dit, vas-y, pour Noël, je fais un calendrier de l'Avent avec un article par jour. Voilà. Mais dans l'absolu, je l'utilise plus tant que ça, tu vois. Et je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que je sais fondamentalement que c'est condamné?
Alors.
Est-ce que c'est parce que j'ai pris au final plus de plaisir à faire des vidéos? Je sais vraiment pas, tu vois, c'est intéressant. Parce que toi aussi, tu me dis que tu l'as un peu délaissé.
Alors, moi, je l'ai délaissé parce que vraiment, écrire, c'est pas une passion. Vraiment, moi, si je pouvais faire mes articles... Et pourtant, je faisais des articles humeur, c'est-à-dire des articles hyper perso sur la confiance en soi, sur comment aller mieux, comment éviter de mettre les gens dans les cases. Mais si je pouvais mettre que des photos sur mon blog, ça m'arrangeait, tu vois. Mais j'étais comme toi à me dire, personne ne lit les blogs. Et au final, dans mes meilleurs temps du blog, j'avais 70 000 visiteurs par mois, ce qui est énorme. Après, attention, ce n'est pas du tout la même tranche d'âge que sur mes autres supports. Par exemple, sur YouTube, c'est très jeune. Et il m'est arrivé de lire des commentaires de jeunes ados de 13-14 ans qui me disaient « C'est quoi un blog ?» Alors que sur Instagram, ma communauté, elle a 25-45 ans. C'est ma plus grande part d'audience. Et elles savent très bien ce que c'est un blog et elles y vont. Et voilà, quoi. Mais c'est vrai que... Et je m'amuse plus sur les montages vidéo, sur faire les photos, faire des petits trucs drôles que d'écrire sur les blogs.
Et est-ce que, en termes de partenariat, tu sens que les marques aujourd'hui demandent moins de blogs ou est-ce qu'il y a encore cette appétence
pour... Il n'y a plus rien. Alors, je t'explique, de mon côté, hein, je peux pas être, parler de manière générale, mais de mon côté, il n'y a plus rien sur le blog. Plus rien de partenariat. Les marques, quand elles me contactent, ce n'est essentiellement que Instagram, YouTube, TikTok.
C'est dingue. Hein.
Vraiment. Alors que, il faut être clair et net et précis... Le blog, c'est référencé. C'est-à-dire que le blog, dans 10 ans, si tu fais une recherche, ça sortira sur Instagram. Tu peux faire ta recherche même dans une semaine, que la photo Instagram ne part pas.
Ouais.
Mais il y a plus d'impact sur Insta.
Ouais, c'est vrai. Et surtout, je pense que les marques savent tellement moins bien s'y prendre que les créatrices ou les créateurs de contenu sur les réseaux, qui cherchent cette expertise, ce contact. Tu vois, c'est la proximité. Et c'est... Je sais pas si c'est plus pertinent, tu vois, de voir une story d'un produit que de lire un article. Je pense que ça dépend aussi de chacun et de chacune.
Ouais, voilà. C'est-à-dire que... Mais par contre, je sais pas toi, mais quand moi, je veux rechercher un avis sur Internet d'un produit de beauté, je lis les blogs.
Alors en fait, j'achète tellement plus de produits de beauté, mais je l'ai fait pendant longtemps. Si c'est du make-up, moi je vais regarder des vidéos YouTube,
ouais.
Parce que comme ça je le vois.
Ouais.
Je vois le rouge à lèvres, à quoi il ressemble, etc. Les fringues, c'était beaucoup Instagram à l'époque où j'achetais encore des vêtements à part sur des... Enfin même maintenant, des petits e-shops vintage, ouais. Et tout ce que je trouve, c'est sur Insta. Mais les blogs, moi ça va être les voyages.
Ah oui,
ah ouais,
alors les city guides.
Les voyages, je les aime.
Ah oui.
Je fais pas confiance, même à TripAdvisor, etc. Je veux lire
oui.
Quelqu'un qui y est allé, qui va me dire genre c'est quoi le truc bien à faire
ouais.
Et tout.
Et de voir les jolies photos, ça je suis d'accord. Les city guides.
Peut-être à faire plus des city guides.
Ouais.
Parce que ça aide de ouf quoi.
Mais bien sûr.
T'as des détails et tout. Ok, donc tu te dis en janvier 2017 du coup. I'm gonna make it work.
Ouais. Attends, j'ai un doute quand même parce que j'ai l'impression que mon blog a déjà 4 ans. Il me semble que l'année dernière, donc ça voudrait dire que je l'ai ouvert en octobre 2015, fin octobre 2015, début novembre 2015, et que je m'y suis mise ouais, janvier ouais. 2016.
Ouais.
Parce que j'ai été diplômée en juin 2015.
Ouais.
Bah donc c'est ça en fait.
C'est
non,
ça.
Le blog va avoir 5 ans. Fin octobre, il a 5
faire
ans.
Une fête, hein.
Ah ouais. Ah ouais, c'est clair.
Place, hein.
Si on m'avait dit, ouais, c'est clair. Si on m'avait dit il y a 5 ans. C'est ce que je dis souvent à Théo, je dis
ouais.
Seulement s'il n'y avait pas eu... Enfin, j'aurais tellement aimé qu'il y ait une petite fée qui me dise sur l'épaule il y a 5 ans, mais même il y a 6 ou 7 ans, ou même quand j'ai loupé mon bac, juste une petite fée qui me dirait juste « Mégane, t'inquiète pas, tu vas y arriver, t'es pas nulle, tu vas kiffer ta vie, vraiment. » Parce que je me souviens que ce que je n'ai pas dit, c'est que j'ai loupé mon bac la première année, mais j'ai été au rattrapage. Et j'avais 70 points à rattraper, c'est quasiment le maximum. Et j'en ai rattrapé 50. Et la deuxième année, alors que j'avais des résultats, la moyenne, j'étais tellement stressée que je n'ai pas eu mon bac. Je l'ai eu au rattrapage. Et en fait, au rattrapage, je pleurais et je disais à Théo, il m'avait accompagnée, je disais à Théo, si je ne l'ai pas le bac, je pourrais me suicider. Vraiment, tellement, je ne pouvais pas tripler. Je ne pouvais pas me retrouver avec des enfants. Et en même temps, je ne pouvais pas ne pas l'avoir. Parce que pour moi, c'était inconcevable de faire sa vie sans diplôme.
Mais quand on y pense, c'est
mais
dingue.
Mais c'est dinguissime.
Quand on
parce
y pense,
que...
c'est dingue. T'as vu à quel point l'enjeu qu'on se met...
C'est n'importe quoi.
Mais c'est... Et
parce que...
franchement, je me mets à ta place. C'est clair, si je n'avais pas eu le bac, t'as vraiment l'impression d'être un échec.
Ah oui.
Et ça, c'est un message que j'essaie vraiment de partager. C'est-à-dire... Déjà, j'aime pas le terme échec parce que c'est une question de perspective et de perception des choses, mais c'est pas parce que tu rates quelque chose que tu es un raté.
Oui, bah.
Tu vois, il y a une énorme différence.
Mais pourquoi ? Parce que de toute ta vie, toute ta scolarité, on te parle du baccalauréat. On te dit que c'est. Alors qu'en vrai, quand tu l'as et que tu fais tes études, le seul diplôme important à la fin, c'est la fin de tes études supérieures.
Ouais.
Mais le baccalauréat. Mais donc, si là, à ce moment-là, en 2009, 2010, quand j'ai eu mon bac, 2010, il y avait une petite fée qui m'avait dit « Mégane, t'inquiète pas, t'as de l'ambition et tu vas y arriver, tu vas arriver à ce que tu veux vraiment, mais ne t'inquiète pas, fais-toi confiance. » Malheureusement, bon, en même temps, si on me l'avait dit, peut-être que je me serais mis comme
ouais,
ça les doigts de pied en éventail
ouais,
et j'aurais peut-être pas fait grand-chose, mais ouais, c'est pas forcément évident. Mais donc du coup, on arrive, janvier 2016, je publie tous les jours, le blog explose et je kiffe ma vie. Et on arrive en août 2016, et là, mon chômage se termine.
Ouais.
Et en fait, il faut savoir que c'était cool, j'ai voyagé gratuitement avec le blog, mais j'ai pas gagné ma vie. Donc il s'est passé un an où vraiment, j'ai gagné sur peut-être un an, j'ai dû gagner 4000 euros. Donc autant vous dire qu'on ne vit pas avec 4000 euros sur un an. Et en fait, bah, là, je dis à mon mec, bon, bah, c'était bien cette petite année de césure. J'ai appris plein de choses sur Instagram. J'ai appris à faire un blog. Je maîtrise le web. Je fais ci, je fais ça. Mais je suis designer graphique. Donc, je vais intégrer une agence. Et mon mec me dit, mais pas du tout. En fait, tu es faite pour ça. Tu t'amuses. Et je dis, mais je fais comment ? C'est-à-dire que je fais un autre prêt pour payer mon prêt étudiant ? Et là, la bonne étoile. Mon chéri a un beau-père. Sa maman s'est remariée avec un homme. Et ce beau-père-là s'appelle Dom et il a toujours cru en moi. C'est-à-dire qu'on a squeezé l'époque école supérieure, mais grâce à lui, j'ai pu aller faire mes études au Mexique parce que je n'avais pas les moyens de me payer mon billet d'avion. Ça a été le premier geste énorme et cadeau qu'il m'a fait. Et donc là, on arrive en août et il me dit « Mais Mégane, moi je crois en toi. » C'est un entrepreneur dans l'âme, il a plusieurs sociétés. me dit, je crois en toi, je sais que ça peut exploser. Et je lui dis, bah oui, mais bon, moi j'ai un prêt étudiant, quoi. Et je stresse. Je suis une stressée de la vie. Ma maman a perdu son travail. L'argent, chez moi, était très tabou. J'ai toujours travaillé énormément pour avoir un petit peu d'argent. Et j'ai peur d'être dans le manque, quoi. Et il me dit, écoute, je mise sur toi. Je vais te donner de l'argent tous les mois, pendant un an. Et si dans un an, ça ne marche pas, eh ben tant pis. Et je lui dis, mais attends, mais... C'est comme si c'était un prêt, donc dans un an, si ça ne marche pas, et je ne pense pas que ça va marcher. Je dois 29 000 euros à la banque et je te dois X milliers d'euros à toi, je ne vais jamais m'en sortir. Il me dit, écoute, moi je pense que tu n'auras rien à me... Tu n'auras pas besoin de me rembourser parce que ça va marcher. Comment tu peux en être sûr? Et je m'en souviens, on était le 21 août 2016. Et je dis à Théo, on rentre le soir chez nous, et je dis, mais en fait, je vais refuser sa proposition. Je peux pas, j'ai déjà un énorme fardeau sur moi de mon prêt étudiant, je peux pas. Et Théo me tanne pendant 2-3 jours, il me dit, fais-lui confiance, fais-lui. Il te fait confiance, pourquoi toi, tu lui fais pas confiance? Et je dis, ok, 25 août, j'accepte. Je rappelle que j'avais gagné 4000 euros en un an. Le 26 août, je reçois un mail sur ma boîte mail. Et Primark me demande d'être leur égérie. Et je fais partie des 4 autres blogueuses dans le monde. Il y en avait une aux États-Unis, une en Italie. J'étais la seule française. J'avais 4 jours pour produire une vidéo. J'étais sur le site Primark pendant une semaine, en pleine page. C'était un énorme contrat. C'était plus que ce que j'avais gagné en un an. Le lendemain.
Putain, le destin, quoi.
Le destin. Et en fait, j'accepte ça. Et Dom... J'espère qu'il écoutera ce podcast. Je te remercie infiniment, mais tu le sais. Tu sais à quel point je t'aime, hein, voilà, et à quel point je te remercie d'être dans ma vie. Il n'a jamais eu à me donner d'argent, puisqu'à partir de ce moment-là, tout a explosé. Tout.
Ah, j'ai des frissons.
Ouais. Ah ouais, c'est vraiment une histoire. C'est vrai qu'il faudrait que je me la rappelle de temps en temps quand même. Il m'a mis le pied à l'étrier, et ouais. En fait, du jour au lendemain... C'est parti, quoi.
En fait, je trouve que c'est une très belle leçon de vie parce qu'en fait, ce qu'on en retire, c'est vraiment si quelqu'un croit en toi et parie sur toi, ça te donne la force d'essayer et c'est essayer et oser qui change tout, quoi.
Exactement. Et pour te dire, c'est que cet homme-là, qui a une place énorme dans mon cœur, il est toujours avec moi. Il est, on est associés.
Ah,
ouais, on est associés.
Oui, pour parce Cupkey que ou...
pour Cupkey et pour mon blog.
D'accord.
C'est-à-dire que c'est une personne en qui j'ai entièrement confiance. C'est lui qui m'a tout appris, tout ce qui est ouvrir une société, le comptable, tout ça, parce que c'est très compliqué. Ouais. Hein, tu dois le savoir. Et quand on arrive là-dedans et qu'on n'a pas eu de cours de ça, de gestion, de trucs très très compliqués, donc il m'a beaucoup aidée. Et quand j'ai voulu monter Cupkey il y a 2 ans avec Théo, mon chéri, c'était indispensable, primordial, obligatoire que je lui propose, qu'on lui propose avec Théo. Et donc, on a fait une réunion, on lui a dit, on avait fait un dossier béton et on lui a dit, voilà, on aimerait créer ça à Paris. Et je m'en souviens qu'il avait été très ému ce jour-là, qu'on lui fasse confiance aussi. Et aujourd'hui, on est associés sur Cupkey aussi. Et sur certainement plein d'autres projets qui arriveront.
Trop cool.
Ouais.
Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'ailleurs de monter Cupkey? Parce que du coup, en plus d'être créatrice de contenu, qui prend déjà beaucoup de temps, il y a maintenant plus de 6 mois, t'as ouvert le premier bar de pâte à cookies
en France. Ouais, en France.
J'allais dire à Paris, mais même en France, que j'ai validé et revalidé. C'est vraiment tellement bon. Qu'est-ce qui a fait que ce projet est né dans ta tête? Parce que c'est atypique, quoi. Et comme tu dis, en plus... j'ai l'impression que t'es quand même quelqu'un qui... Enfin, si jamais tu n'as pas eu de formation dans quelque chose, tu vas un peu te censurer, quoi. Tu vas dire, enfin, le bouvier syndrome de l'imposteur, tu vois.
Ouais.
Mais tu vois, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, en fait, oui, moi, je peux ouvrir un bar à cookies et je vais le faire?
Ben parce que je me suis dit, je vais ouvrir un blog et finalement, ça va réussir. Ça va marcher, donc pourquoi pas pourquoi ça marcherait pas dans d'autres domaines?
Ouais.
Et en fait, j'ai un autre truc, c'est que... On l'a dit et redit, j'ai loupé mon bac. Donc j'ai eu un échec dans ma vie. Je ne veux plus avoir d'échec. Et surtout, j'ai ce truc-là dans la tête qu'il faut que je réussisse ma vie avant 30 ans. Ça, c'est un autre... Ouais. C'est, je sais pas, je pense que c'est un complexe d'infériorité. Je ne sais pas. Je veux réussir ma vie avant 30 ans. Et ma mère va te dire... je pense si elle écoutera le podcast, elle va dire « Mais elle a réussi déjà le blog !» Mais en fait, j'en veux toujours plus. Je suis jamais... En fait, je ne suis pas fière de moi encore. Donc, ce truc-là, je suis très gourmande. J'avais adoré ce concept-là à San Francisco. Je me suis dit que ça n'existait pas en France, il fallait le ramener. Et j'ai fait ce que j'adorais, c'est-à-dire toute l'identité visuelle, la déco, le logo, les strates créatives que j'adore faire... C'était un projet, quoi. C'est comme un projet d'école, mais en vrai, avec mon mec, avec son beau-père. Et c'était un autre truc à mon arc. Une autre chose d'accompli. Une autre chose d'accompli, un autre défi. Je m'étais même dit, avant de monter Cupkey, oh là là, quand Cupkey sera fait, si j'y arrive et que ça marche et qu'il y a des gens qui apprécient et que j'ai une vraie boutique en vrai, là, je serais fière de moi et je serais trop heureuse. Bon, bah, je suis très heureuse, hein. Mais il va falloir d'autres projets. Il va falloir d'autres projets, quoi. Je peux pas m'arrêter là. En fait, j'ai toujours besoin de nouveau, mais c'est comme toi. Ouais. C'est le problème, c'est que, ok, il y a un projet qui est fait, ok, ça marche, c'est chouette, mais je m'ennuie là, il faut autre chose.
Bah, tu vois, moi, je suis en pleine réflexion là-dessus, parce que j'ai toujours pensé que c'était ma nature, et que c'était, voilà, que la vie, ce serait ça. Et j'ai rencontré un mec super qui s'appelle Jonathan Lehmann. Donc si jamais vous n'avez pas écouté l'épisode avec Jonathan, cher auditeur et auditrice, je vous le conseille, ce sera je pense juste avant toi. J'ai même essayé de faire une partie 2 parce que bref, mec passionnant qui était avocat d'affaires, qui était pas du tout heureux alors qu'il pensait, enfin il a fait ce qu'il pensait être la réussite et ce qu'on attendait de lui. Et il a totalement changé de vie. Aujourd'hui, il est, enfin, tu vois, expert en méditation. Il a lancé son app de méditation. Il fait des conférences.
Ça me fascine.
Et en fait, ça me fascine parce que pour avoir échangé avec lui, j'ai lu son premier livre. Je vais lire son deuxième. En fait, il m'a dit, mais tu sais, Louise, tes projets, c'est top, mais c'est pas ça qui t'apportera le bonheur.
Oui.
Le bonheur, c'est exactement en toi. Oui. Et en fait, je trouve ça tellement fascinant de me dire qu'un jour, je pourrais peut-être être heureuse sans me dire que ça dépendra de mes projets. Aujourd'hui, ça me paraît absurde.
Moi aussi. Aujourd'hui, je suis comme toi.
Mais j'y crois.
Oui.
Et j'y aspire, tu vois. Ouais. Je me dis, c'est vrai que il fait la différence entre les plaisirs et la joie. Les plaisirs, c'est des circonstances extérieures. Donc, le plaisir qui va me procurer un bouffon dans le chocolat, le plaisir amical, amoureux. Mais la joie, c'est le bonheur qui est en toi et qui se suffit à lui-même, tu vois, et qui n'est pas engendré par des circonstances extérieures. Et donc, je me dis, je pense que tu le sais, hein, mais je me dis, ça pourrait être intéressant aussi, peut-être que tu cherches à. Enfin, qu'on essaye, tu vois, de plus juste chercher le bonheur en accomplissant des projets, parce que, en fait, j'ai peur qu'en effet, ça mène peut-être à l'épuisement.
Mais totalement.
Tu sais, c'est un peu dangereux de toujours vouloir faire plus, tu vois.
Mais évidemment.
Donc, je me dis, bon, sauf que regarde. Ça va, c'est stimulant et j'aime cette énergie, j'ai pas envie de la perdre, mais je pense qu'il y a un équilibre à trouver, il faut peut-être essayer de chercher aussi. Juste à l'extérieur.
Bien sûr, mais ça, c'est un travail sur soi. Moi, je sais que j'ai vu une psy, tu vois, parce qu'effectivement, on me l'a déjà fait remarquer, et moi aussi, je m'en suis rendu compte. J'ai l'impression d'être heureuse seulement quand je crée. Et on a eu cette discussion juste avant de commencer le podcast. Je disais que les deux jours avant, j'étais un peu triste, un peu. Alors, j'ai mes règles en ce moment. Les hormones jouent pas mal, mais j'étais un peu triste. Pourquoi ? Je vais vous la dire la raison, simplement parce que je n'ai pas créé. Et je l'ai dit à mon mec, je dis, voilà, en fait, quand je ne crée pas, j'ai l'impression de ne servir à rien.
Ouais.
Et servir à rien, mais c'est angoissant. C'est-à-dire que quand on me demande, mais comment tu trouves l'énergie d'être partout, shake up, qui crée du contenu, tes nouveaux projets, tes vidéos, machin, mais si je ne le fais pas, je suis déprimée. Donc je préfère être fatiguée, mais heureuse, que déprimée. Moi, tu me laisses deux jours sans rien faire. Non, je peux pas. Même en vacances, je peux pas. Alors oui, je vais bien me reposer un après-midi, tout ça. Mais bon, le lendemain, je suis déjà sur d'autres idées. Je suis déjà. Mais je suis d'accord. C'est pas ça le bonheur. C'est pas ça. C'est des plaisirs quand tu réussis à faire ce que t'as envie, machin. Mais pour le moment. Pour le moment, je pense que c'est vraiment un travail sur soi. Il faut vraiment travailler sur soi pour comprendre.
Est-ce que tu essayes de prendre soin de toi ou comment est-ce que tu prends soin de toi ?
Je suis en plein dedans, c'est dingue. Ouais. Je suis en plein dedans. Je te disais tout à l'heure, j'ai des rituels maintenant le matin.
Ouais. Et un peu Miracle Morning
ou... Ouais, alors, je l'avais lu, je voulais le faire, mais en fait, je commençais à me détester, dans le sens où dès que j'étais un peu trop fatiguée ou je repoussais mon réveil, j'avais l'impression d'être nulle. Et en fait, ça m'angoissait, ça me mettait une pression que j'ai décidé d'arrêter. Et en fait, je suis tombée sur une application, non mais à la noix, c'est-à-dire sur Instagram, hein, je me suis fait avoir, enfin non, finalement elle est bien, qui s'appelle Fabulous d'ailleurs. Et c'est une application qui te donne des rituels. Et au début, tu commences par un seul rituel pendant 3 jours, boire de l'eau quand tu te réveilles. Et après, c'est toi qui choisis, faire du sport, méditer, et t'as un ordre. Et plus que, enfin, à chaque fois que tu rajoutes un rituel, ça te compte le temps. Et moi, mon rituel, là, le matin, il est aux alentours de 20 minutes. Et en fait, j'adore. Je me lève, je bois un grand verre d'eau. Après, j'ouvre les fenêtres, ce que je te disais tout à l'heure, j'ouvre les fenêtres. Je prépare mon petit déjeuner, je lis 15 minutes. Moi qui dis tout le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Non, je lis 15 minutes avec de la musique classique. Ça me met, mais dans un état de bien-être, vous ne pouvez pas imaginer comme je suis contente. À chaque fois, quand Théo se lève un petit peu après moi, il me dit, il arrive dans la cuisine ou dans le salon et je lui dis, oh, je suis heureuse, genre j'adore. Et ensuite, je médite. Alors, j'ai du mal à méditer, je commence, hein. J'ai du mal, ça va à droite à gauche, mais je me dis, bon, bah, c'est bien. Et surtout, je me suis fait un vision board. Donc, ça, c'est dans le Miracle Morning, le vision board, je pense.
Ouais, bah, là, le principe de visualisation.
Ouais, voilà. Et. Ouais. Que bon, ça j'ai adoré le faire, le coller les trucs machin.
J'ai adoré, moi je l'ai fait en janvier.
Ouais.
Mais en fait le Covid a tellement tout niqué. Mais
bien sûr.
Qu'il faut le refaire.
Mais bien évidemment,
c'est
évidemment.
Vrai qu'il faut le refaire.
Évidemment. Mais du coup voilà, je le regarde, je pense à ça, et puis après je vais prendre ma douche et non, il y a aussi s'étirer. Je prends du temps pour m'étirer.
Ouais.
Et en fait ça dure 20 minutes. C'est bête comme chou. Vraiment c'est bête comme chou. Mais à la fin de ces 20 minutes-là, j'ai l'impression d'avoir fait un bien fou à mon corps, alors que ça se trouve. C'est du bullshit, c'est que dans la tête. Mais en tout cas, ça a marché, je suis apte à commencer ma journée.
Ouais.
Et les jours où, parce que je me suis levée un petit peu tard, parce que machin, je ne l'ai pas fait, je culpabilise. Tu sais, je ne suis pas dans le même mood.
Ah, je suis totalement d'accord.
Voilà, donc je prends soin de moi comme ça.
D'accord.
Mais ça fait pas longtemps, ça fait 10 jours. Hein.
Ouais. Bah, c'est déjà pas mal. Et comme tu dis, je trouve ça bien. Moi aussi, le Miracle Morning, je n'ai pas pu faire... En fait, j'ai un peu du mal avec déjà des règles imposées.
Ouais.
J'aime choisir mes propres règles. Et donc, en fait, je me suis aussi réappropriée.
Oui.
C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de faire, en effet, stretching ou un peu de corps le matin. Parce qu'en fait, quand je fais pas un peu de sport le matin, mais en fait, c'est con, moi, c'est mon café.
Ouais.
C'est-à-dire que je ne bois pas de café, j'ai jamais aimé ça. Et quand je bouge pas un peu le matin, même si c'est juste 10 minutes d'étirement de yoga... Hein, mais je suis beaucoup plus fatiguée que quand je fais des étirements, tu vois.
Ouais.
C'est un truc de ouf.
Mais même le corps se réveiller, tu vois.
Ouais, exactement. Même la digestion et tout.
Ouais.
Enfin, je vois grave la diff, donc ça, je pense que c'est pas que psychologique. Après, je médite maintenant, moi, avec Seven Mind, donc
l'appli
de Jonathan, mais qui est top, parce que c'est des thèmes.
Oui.
Des méditations à thème. Donc, je fais peut-être une méditation créativité, un stage de 7 jours, compassion, confiance en soi. Donc, j'adore, parce que j'ai quand même l'impression que c'est un peu utile et on marche un peu à ça, tu vois. Alors moi je lis plutôt le soir, pendant le Miracle Morning je lisais le matin, mais en fait pour le coup lire le matin ça me stresse parce que j'ai un peu en tête que ma journée doit commencer, donc j'ai un peu du mal à prendre autant de temps alors que j'arrivais bien pendant le Miracle Morning. Mais bon, là du coup c'est vraiment genre juste étirement, méditation, bon petit déj, ma tout doux, et la journée peut commencer, tu vois.
Ouais. Ah oui, donc moi dans mes rituels c'est ça, c'est j'ai mes 3 objectifs de la journée. Pas 8000, 3. Et j'ai une page et j'écris des choses si j'ai envie d'écrire des choses. Genre, je me sens super bien, c'est trop bien. Ou alors.
Ou alors ça va pas du tout.
Ouais, voilà, c'est ça.
Ouais. Trop cool. Bon, alors malheureusement, le temps passe. C'est fou. Moi, je crois que maintenant, je vais faire des podcasts de 2 heures.
Ouais, c'est clair.
Non, mais ça fait 1 heure, dis-toi.
Déjà ?
C'est un truc de ouf.
Mais après, on le sait, toutes les deux, c'est catastrophique. Hein.
Ouais.
C'est vraiment, à chaque fois qu'on se retrouve, on parle pendant 8 ans.
Non, mais moi, j'aime trop. Enfin, c'est un truc, tu vois, le podcast, c'est un des trucs que je préfère faire.
C'est vrai.
Bah, en fait, j'adore échanger.
Oh, et d'apprendre sur les autres. Oh là
oui,
là
c'est
là
tellement
là
enrichissant. Oh, c'est un truc de ouf. Et j'aime autant en écouter qu'en faire, même encore plus en faire. Donc je vais te poser 2 dernières questions. Non, 3, allez. D'abord.
Alors, 8,
ça va s'arrêter. Non, j'allais te demander, est-ce qu'il y a une ressource que tu aurais envie de partager aux personnes qui nous écoutent ? Que ce soit un film qui t'a touché, un livre qui t'a marqué, une chanson qui te met de bonne humeur, enfin, un petit truc que tu as envie de partager là aux personnes qui nous écoutent ?
Je réfléchis. Alors, des films, j'ai beau en regarder, je retiens jamais les noms ni les acteurs, c'est catastrophique. Les livres. À part les 5 blessures de l'âme qui m'a chamboulé.
C'est qui ça déjà?
Oh là là,
c'est
alors là,
c'est pas Lise Bourbeau?
Non, je crois pas.
D'accord. Alors, parce qu'il y a une femme, je sais, qui a fait un livre sur les blessures d'enfance.
C'est peut-être elle, hein, mais je saurais pas te dire. Où tu penses avoir une blessure, toi, tu sais, tu te dis toute ta vie, tu dis, ah bah moi c'est ça, c'est ça, sûr que c'est ça.
Ouais.
Tu lis le livre et tu fais, mais en fait pas du tout, je suis à la côté de la plaque.
Ouais.
Ah ok, t'apprends.
Et ça t'aide quand même, parce que moi, on m'a conseillé typique le livre de Lise Bourbeau, donc je mettrai dans le note du podcast si c'est bien qui a écrit celui-là. Mais en fait, je me dis toujours, j'ai peur qu'en fait ça me fucked up plus qu'autre chose l'esprit, tu vois.
Bah en fait tu prends ce qu'il y a à prendre et tu comprends, moi j'ai compris des choses avec ma maman, la relation que j'avais avec ma mère mais sinon un truc pour mettre de bonne humeur, moi c'est ça mon conseil, juste pour être de bonne humeur, c'est d'écouter de la musique. D'écouter de la musique, ça me met, mais que ça soit, j'y connais strictement rien en musique classique, mais sur Spotify t'as déjà des playlists toutes prêtes, je mets ça. Et je t'assure, mais c'est un bonheur, je n'y connais rien. J'ai ma mère, ma famille, on n'écoute pas. Hein. C'est juste que ça me met dans un bon mood, ou alors du jazz. Par exemple, là, on enregistre le podcast, mais à la maison, j'ai tout le temps de la musique, quoi. Vraiment, et ça influe vraiment sur mes humeurs. Et quand je suis triste, mais comme beaucoup, je vais faire exprès d'écouter de la musique triste pour me faire évacuer les larmes. Je vais les sortir et ça va me faire du bien, quoi.
Mais ça, tu vois, c'est génial. Un truc que j'arrive pas du tout à faire. Moi, je suis une espèce de déni de la tristesse.
Ah ouais.
Je la rejette totalement.
Oh non.
Et donc, quand je suis triste, moi, je mets une musique qui va mettre de bonne humeur en mode bon, Lila, arrête, t'as pas de raison d'être triste. Et je crois que ça, c'est un truc, un jour, ça va m'exploser à la gueule.
Genre, bah, en même temps, c'est
tout
pas.
Ce que j'ai refoulé.
Bah, en fait, c'est ça. C'est que d'un côté, c'est plutôt bien parce que comme ça, tu te lamentes pas, tu vois. Mais d'un autre côté, tout ce que tu refoules, ton corps l'absorbe.
Ah mais c'est ce qu'on m'a toujours dit.
Et le
mais
corps...
Ça vient
peut-être
de
ah ben ouais.
Là, c'est gros travail, moi.
C'est, ça, c'est sûr et certain. Mon psy, enfin... Ah ouais, non, c'était... Il faut extérioriser. Après, bon, t'as pas besoin de pleurer à chaudes larmes.
Ouais.
Je sais que je suis très, très sensible, donc je vais pleurer pour un rien. Et une musique à la télé...
Mais tu vois, pour le coup, par contre, je pleure hyper facilement dans les films.
Oh là
genre,
là
attends, la dernière fois, c'était dans quoi que j'ai pleuré. Jules, il n'en revenait pas. Je sais plus, on regardait un film et qui était même pas triste, mais genre on avait fait une crasse à un petit papy.
Oh, arrête, quand ça parle de. Ouais, non, c'est
des
pas
personnes
possible.
Âgées,
ah,
ça
ouais.
Se passe pas comme ça devrait. J'ai dit, Chelle et Jules, mais Louis, t'es pas en train de pleurer. J'ai
ah, si.
Pas méchamment, mais juste en mode, c'est pas possible.
Ouais.
J'étais comme ça.
Ah ouais, non, c'est pas possible.
Alors dans la vraie vie, pas tant que ça.
Oui.
Trop bizarre.
C'est dingue. Ah ouais. Non, moi, c'est vraiment. Les larmes, et plus je vieillis, plus c'est cata. Hein. C'est-à-dire que je peux pleurer pour tout et n'importe quoi, d'énervement, de tristesse, de joie, de. Oh, ouais,
non, mais c'est bien, t'évacues.
Ah oh, ouais, j'évacue.
Tu refoules pas, tu vois.
Ouais, c'est... j'évacue, heureusement.
Ouais. Alors ensuite, je voulais te demander s'il y a une personne dont t'aimerais entendre l'histoire ou que t'aimerais entendre sur In Power, ce serait qui?
Je réfléchis. Si, mais je pense qu'elle est. Je crois même que tu l'as déjà interviewée.
Dis-moi.
Et si tu ne l'as pas fait, elle a déjà fait un podcast. Mais elle est. Quand on parle de larmes, c'est-à-dire que j'ai pleuré pour elle hier. Elle s'appelle Marie Clémence. Tu ne l'as pas.
Non.
Son nom de famille, c'est Marie Clémence. Elle a sorti un livre et en fait, c'est une femme qui est homosexuelle et qui s'est révélée assez tard, qui vient d'une famille catholique très bourgeoise. Donc. Pas du tout accepté l'homosexualité et elle est mariée avec sa femme et elles ont une petite fille. Et en fait, je l'ai rencontrée en vrai avant de découvrir son blog où elle raconte son histoire et elle a sorti son livre qui cartonne. Et elle est incroyable, c'est-à-dire qu'elle est incroyable. Et là, en fait, hier, si j'ai eu des larmes, c'est parce qu'elle a annoncé hier qu'elle venait de faire une fausse couche après 3 mois. Et qu'en fait, en plus d'encaisser une fausse couche, qui je pense, ça doit être terrible pour une femme qui veut un enfant, c'est qu'elle, elle fait, tu sais, des fives,
ouais.
Tout ça, et qu'elle explique, c'est pas reconnu en France, son couple, alors, est entre guillemets reconnu parce qu'elles sont mariées, mais faire un enfant, c'est pas autorisé, et que, en plus d'avoir dépensé énormément d'argent, 6000 euros, elle vient de perdre son bébé, que c'est des piqûres tous les jours, enfin, c'est un parcours du combattant. Et ça m'a chamboulée. Mais vraiment, je me suis dit, elle ne mérite pas. En plus, comme je la connais, voilà, elle ne mérite pas.
Ouais, ouais.
Donc, elle, si tu pouvais l'interviewer, elle est mais génialissime. Elle a son histoire, elle est incroyable. Elle s'est battue contre toute sa famille qui n'acceptait pas l'homosexualité. Ses grands-parents ne sont pas venus à son mariage. Sa mère, au début, refusait qu'elle voie cette femme. Elle devait se marier avec un homme d'une bonne famille. Enfin, elle a tout envoyé en l'air. Elle, c'est un exemple, mais elle a tout envoyé en l'air. Elle a cassé tous les codes de ce qu'elle avait appris, ce qu'on lui avait inculqué.
J'avoue, c'est très inspirant.
Ah ouais, donc elle est catholique, homosexuelle, mariée, avec une petite fille.
Trop cool. Bon, bah, je note la recommandation, avec plaisir. Et la dernière question, c'est donc la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie ?
Être heureuse.
Putain, je crois que c'est la réponse la plus rapide qu'on ait jamais donnée sur le podcast. Straight to the point.
Ouais.
Être heureuse. Trop cool.
Bon, bah, on se donne rendez-vous dans 2 ans, 3 ans, et on est heureuse. Maxi heureuse, tu sais, comme ce que te disait Jonathan.
Ouais, en fait, je pense que c'est le fait de se mettre en rendez-vous qui fera qu'on sera pas heureuse.
Ouais.
Et je pense que c'est vrai. De 100 ans, faut que tu l'envoies.
Ouais, c'est clair.
Quoi. Parce que c'est hyper on est conditionné en effet à se dire en tant que femme à 30 ans, tu dois être mariée, avoir des enfants, machin.
C'est exactement ça.
Mais
alors je sais que j'en aurais pas à 30 ans.
C'est un livre, enfin c'est un chiffre.
Ouais.
Ça veut rien dire. C'est comme note, enfin, tu vois,
mais c'est comme toi, là, tu vas arriver à l'approche où on va te dire, à l'âge, parce que moi j'y suis, 29 ans, on te dit sans cesse, tous les jours, et l'enfant, c'est pour quand ? Et encore, imagine 13 ans de couple, bientôt marié, sur Instagram, je n'ai que ça, je fais la guerre contre ça, c'est plus possible.
Mais tu vois, moi j'ai l'impression que j'ai une certaine chance, c'est que je suis tellement cash.
Oui, c'est vrai.
Que tu vois, j'ai l'impression que ce qu'on va dire parfois à des gens, on me le dit pas tant que ça, mais parce qu'en fait, je te laisse même pas essayer.
Enfin,
moi, je sens que le jour où même on va me dire alors le mariage, en fait, ça va être. Je vais être hyper claire en mode, mais en fait, arrêtez de me poser la question. C'est-à-dire, ça ne.
Ouais, mais c'est tellement ancré. Moi, ça fait 2 ans que je dis à tout le monde, arrêtez de poser la question de quand est-ce que tu vas faire un enfant, puisque on ne connaît pas la vie des gens. Ça se trouve, je suis stérile. Ça se trouve, ça fait 5 ans que j'essaye. Ça se trouve, je n'en veux pas. Et avoir un enfant n'est pas une fin en soi pour tout le monde.
Totalement.
Et quand je réponds ça, c'est plutôt quand même très clair. Ça ne va pas.
Ça ne va pas.
Bah, ça ne va pas.
Moi, je conseille à tout le monde de lire Sorcière de Mona Chollet, qui questionne en fait tout ça et ce que c'est être une femme et les rôles qu'on lui a un peu imposés dans la société. Bon, on est encore reparti.
Ouais, c'est ça.
Malheureusement, on va s'arrêter là. Dans tous les cas, si vous voulez plus de Mégane, vous pouvez la trouver sur Instagram, sur YouTube, sur son blog. C'est Mégane VLT partout.
Oui, c'est ça.
Vous pouvez la retrouver chez Cupti, qui est quand même sur le samedi, je crois.
Ouais, c'est ça.
Donc, c'est dans le 5e arrondissement à Paris. Et genre, allez-y. Enfin,
c'est cool. Venez soutenir les petits commerçants parce que.
Après le Covid. Et en plus, elle a eu les grèves avant.
Ouais, c'est-à-dire, j'ai ouvert pendant les grèves et 3 mois d'ouverture Covid.
Putain. Non, mais vraiment, allez-y. Et surtout, vous ne serez pas déçus. Donc voilà, est-ce qu'il y a un autre endroit où tu veux qu'on redirige les personnes qui nous écoutent ?
Non, c'est très bien.
C'est déjà.
Continuez d'écouter les podcasts de Louise.
Oh, vous êtes mêmes.
Ouais, vraiment, c'est trop chouette.
Bon, bah, moi, j'ai passé un super moment.
Merci à toi.
Et à très vite pour un prochain épisode.
Plein de bisous et merci à toi de m'avoir accueilli.
Avec plaisir. Bisous.
Merci de vous être rejoint à notre conversation avec Mégane. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant @MéganeVLT et @MyBetterSelf. On sera vraiment ravis d'interagir avec vous. Vous pouvez aussi envoyer cet épisode à 2 amis qu'il pourrait inspirer et écouter les précédents épisodes du podcast que vous n'avez peut-être pas encore eu l'occasion d'écouter. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il a pu vous inspirer. N'oubliez pas de croire en vous et en vos rêves. C'est la première étape indispensable pour prendre le pouvoir de sa vie. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d'InPower.